VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Somalie, les forces de sécurité sont à la recherche des hommes armés qui ont enlevé une infirmière allemande du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, mercredi soir, dans un ensemble résidentiel de Mogadiscio, la capitale. Nous sommes très inquiets au sujet de la sécurité de notre collègue, a déclaré dans un communiqué aujourd'hui Daniel Omalé, directeur adjoint du CICR pour la Somalie. Cet enlèvement est la deuxième attaque en moins de deux semaines contre un employé du CICR dans le pays. Abdul Hafid Youssouf Ibrahim, un Somalien qui travaillait pour l'organisation humanitaire depuis 5 mois, a été tué le 25 mars par l'explosion d'un engin piégé placé sous son véhicule alors qu'il quittait les locaux du CICR. Au Burkina Faso, l'école primaire de Bafina, une localité située à 180 km au nord de Ouagadougou, la capitale, a été incendiée mercredi soir par des individus armés qui ont également saccagé le marché d'un village voisin. Longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso est maintenant confronté depuis 3 ans à des attaques de plus en plus meurtrières et fréquentes dans le nord du pays, qui visent particulièrement les établissements d'enseignement. Plus de 200 écoles ont dû être fermées. En Gambie, 2 généraux de l'ex-président Yahya Jammeh ont plaidé non coupables mercredi devant une cour martiale de Banjul, la capitale. Ils avaient suivi l'ex-président gambien en exil en Guinée équatoriale en janvier 2017, avant de retourner dans leur pays 1 an plus tard, où ils ont été inculpés de désertion. Abdourahmane Dia.
Les généraux Assoumana Tamba, ancien commandant de la garde présidentielle, et Oumpa Mendy, ex-responsable de la protection rapprochée de Yahya Jammeh, avaient été arrêtés le 21 janvier, peu après leur retour de Guinée équatoriale. Ils sont poursuivis pour désertion de poste et risquent la prison à perpétuité. Après la lecture des charges pesant contre eux, les 2 hommes ont indiqué qu'ils plaidaient non coupables. Lors d'une audience début avril, les avocats de la défense avaient vainement essayé de récuser la cour martiale, estimant que leurs clients ne faisaient plus partie de l'armée puisque leur salaire avait été suspendu après leur départ du pays et que leurs équipements leur avaient été retirés peu après leur retour en Gambie. Le procès avait ensuite été ajourné à 2 reprises, le juge exigeant tout d'abord que les 2 généraux comparaissent en uniforme, puis afin de permettre à l'État de désigner des avocats commis d'office. Les prochaines audiences sont fixées au 9 et 10 mai. La sécurité de la Gambie est toujours assurée par la force de la CEDEAO.
Au Tchad, des députés de l'opposition ont déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour demander l'annulation de la loi sur la nouvelle constitution adoptée lundi. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
26 députés de l'opposition sont à l'origine de cette demande d'annulation de la loi portant adoption de la Constitution de la 4e République. Elle a été adoptée lundi par 132 voix pour. Seuls 2 députés de l'opposition étaient présents dans l'hémicycle et ont voté contre. Les autres ont boycotté le scrutin pour protester contre l'adoption du projet de révision constitutionnelle par voie parlementaire. L'opposition, des organisations de la société civile et l'Église catholique avaient demandé qu'il soit adopté par référendum. Le texte est issu des résolutions d'un forum national tenu en mars, mais boycotté par l'opposition et une partie de la société civile. Il renforce les pouvoirs du paysan Idriss Déby Itno avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral. Le chef de l'État a 8 jours à compter de la date d'adoption pour promulguer la nouvelle constitution.
Au Congo-Brazzaville, les avocats du général Jean-Marie Michel Moukoko, un ex-candidat à la présidentielle actuellement en prison, ont saisi l'ONU et veulent saisir d'ici à la fin de la semaine la Commission africaine des droits de l'homme pour réclamer la libération de leurs clients détenus arbitrairement selon eux. Ils ont par ailleurs annoncé avoir été informés mercredi du renvoi du procès du détenu devant la cour criminelle, un procès qui devait initialement s'ouvrir fin mars. Le général Moukoko, ex-chef d'état-major de l'armée congolaise, a été incarcéré pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes de munitions de guerre. En République démocratique du Congo, la société civile du Nord Kivu dans l'est du pays dénonce l'affairisme des services de sécurité dans cette partie de la RDC où les groupes armés tuent des civils sans protection. Une lettre signée par les églises, les avocats et les ONG a été adressée à ce sujet au président Joseph Kabila. Le point avec Eddy Isango.
Dans la lettre, la société civile du Nord Kivu révèle qu'au moins 1343 personnes ont été tuées en 2 ans dans les territoires des Beni et des Lubero. Les auteurs de la lettre dénoncent des centaines de cas d'enlèvement, les viols de plusieurs centaines de femmes, la destruction d'écoles et des centres de santé. Dans les grands centres, on assiste impuissamment à l'affairisme des services de sécurité, précise la lettre citant l'Agence nationale des renseignements, ANER, dirigée par un proche du chef de l'État, la police et l'armée. Les églises, les avocats et les ONG interpellent les gouvernements congolais et la communauté internationale à saisir la Cour pénale internationale CPI. La procureure générale de la CPI, Fatouma Bensouda, est arrivée mardi à Kinshasa où elle doit rencontrer des responsables officiels et tenir une conférence de presse.
La Voix d'Amérique en direct de Washington.
On reste en RDC, fin du conflit entre la compagnie minière d'État Gécamines et le millionnaire belge Georges Forest. Le différend portait sur l'exploitation du terril de Lubumbashi au Katanga sur fond de rouillé vers le cobalt dans l'est du pays. L'accord annoncé mercredi prévoit que le groupement du terril de Lubumbashi, GTL, transfère la pleine propriété de l'usine à la Gécamines. C'est un autre point de marqué par la RDC qui cherche à tirer un plus grand profit de ses ressources minières. Lors d'un récent séjour ici à Washington, le PDG de la Gécamines, Albert Yuma Mulimbi, a expliqué à Timothée Donangmaï la décision de son pays de réviser son code minier.
Le code minier qui était en vigueur jusque-là date de 2002, au moment où on était à la sortie des guerres. Et les avantages qui avaient été concédés aux sociétés multinationales n'ont jamais permis à l'État congolais, aux populations, d'avoir réellement un bénéfice là-dessus. Deuxièmement, à part l'insatisfaction des populations, il y avait l'insatisfaction du partenaire local qui est la Gécamines. Parce que ce que les gens oublient de dire, et surtout les multinationales, qu'elles parlent que nous sommes les grands producteurs de cobalt et de cuivre, c'est que les gisements qu'ils utilisent ont été cédés dans ce partenariat par la Gécamines dans les années 2000-2002, sur instruction de l'État, mais aussi sur recommandation de la Banque mondiale qui estimait que les Congolais ne peuvent pas gérer leur secteur minier. Mais la Gécamines n'a rien bénéficié de tout ce qui avait été promis en 2002 en termes de dividendes et de royalties. Et nous avons enclenché des audits qui ont démontré qu'on n'avait rien gagné. Il était temps d'arrêter ces partenariats basés sur cet ancien code minier. Et donc, et la société civile et la Gécamines, et finalement même l'État congolais, n'avaient pas retrouvé leur compte dans l'ancien code minier.
Aujourd'hui, la Gécamines, qui était productrice minière dans le temps, se retrouve à se contenter des royalties. Comment expliquer cela?
Vous savez, moi j'ai eu à le dire souvent, que ça avait été une erreur politique économique d'avoir, un, fait le code minier en 2002, et deux, d'avoir obligé la Gécamines à céder ses gisements dans les partenariats. Vous le savez, quand la Gécamines était seul producteur, elle produisait près de 500 000 tonnes par an. Elle représentait 60 à 70% des revenus de l'État. Aujourd'hui, avec le code minier de 2002, on a cédé nos mines, on a produit plus de 1 million de tonnes, et ces entreprises multinationales ne contribuent même pas à 5% du PIB de l'État congolais.
On parle aussi d'un problème de transparence dans la gestion des revenus miniers dans votre pays. Qu'en est-il?
Quand on parle de transparence des revenus, on oublie de dire ce que je viens de dire, que ces sociétés sont à 80% en moyenne gérées par des entreprises étrangères. On réclame à l'État congolais qui ne touche pas d'impôts sur les revenus, à la Gécamines qui ne touche pas de dividendes, d'être transparent, quand ceux qui prennent 80% de revenus, je ne pas dire la totalité, on leur demande rien. Le vrai problème de transparence, et je demande à ces ONG internationales d'aller auditer les firmes internationales. Le problème de la transparence est là. Vous savez ce qu'on a découvert quand on a fait des audits qu'on a commandités chez Ernst & Young? C'est que par rapport aux prévisions qu'ils avaient faites quand on leur avait donné les gisements, leurs charges d'exploitation ont plus que doublé. Les charges financières ont augmenté de 200%. Le coût des investissements a augmenté presque de 3 fois. Mais la production qu'ils avaient promis est exactement la même. Mais tous les coûts ont explosé, ce qui justifie qu'ils disent qu'ils sont en perte. Mais malgré qu'ils disent qu'ils sont en perte, ils veulent encore qu'on ne revise pas le code minier, qu'on leur garde les mêmes avantages. Mais pourquoi ils restent au Congo?
Albert Yuma Mulimbi, PDG de la Gécamines, la compagnie minière d'État de la RDC. Et pour terminer, conflit en Syrie, des centaines de rebelles et de civils doivent quitter ce jeudi 3 secteurs dans la banlieue sud de Damas, la capitale. C'est ce qu'ont indiqué les médias d'État, le régime du président syrien Bachar al-Assad consolidant son emprise sur la capitale et ses environs. L'annonce intervient alors que le gouvernement poursuit une offensive militaire en périphérie sud de Damas contre l'ultime bastion du groupe État islamique retranché dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk et les quartiers voisins. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.